deuxième cours de la série. La semaine dernière, on a parlé de la Terre, du Soleil, on a vu quelles difficultés vous pouvez y avoir à parler de taille d'un astre, en particulier dès qu'on commence à avoir un astre qui est gazeux. Et là, on va élargir un petit peu le point de vue, donc on va plus s'intéresser à un astre tout seul, mais à un groupe d'astres, donc en l'occurrence le système solaire. Et alors, la semaine prochaine, on parlera des autres systèmes planétaires qui ont été découverts, donc toutes les planètes qui orbitent autour d'autres étoiles que le Soleil. Et pour ça, je vais avoir le renfort d'un collègue, donc on sera à deux la semaine prochaine pour parler des planètes. Alors on commence par le système solaire aujourd'hui. Donc l'image que vous avez ici en présentation, c'est une image dans laquelle les tailles relatives des planètes sont à l'échelle. Donc si vous regardez, comparez les diamètres par exemple de Jupiter par rapport à la Terre, donc il y a un rapport à peu près 10 de la Terre par rapport au Soleil, donc je vous rappelle c'est à peu près un rapport 100. Donc là, les rapports de taille sont respectés. Par contre, les rapports de distance comparativement aux tailles ne sont pas du tout respectés, parce que sinon, on n'a absolument rien sur le schéma. Pour vous donner un peu une idée, imaginez, on va prendre le cas de la Terre, par exemple. Donc la distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Ça varie un petit peu, parce que le rapport de la Terre n'est pas tout à fait circulaire. Donc 150 millions de kilomètres. La Terre fait à peu près 10 000 kilomètres de diamètre, alors on va arrondir à 15 000 pour comparer plus facilement à 150 millions. Ça fait un rapport 10 000 entre les deux. Donc ça veut dire que si la Terre faisait 1 mètre de diamètre, elle se trouverait à 10 km du Soleil. Donc il y a vraiment énormément de vie entre la Terre et le Soleil et très très peu de matière due aux planètes. Donc c'est pour ça que sur le schéma, on ne peut pas respecter à la fois la taille des planètes et leur distance au Soleil, sinon on ne voit pas grand chose. Alors le système solaire, évidemment, ce qui est majeur dans le système solaire, c'est le Soleil. Donc on en a parlé la semaine dernière, je ne vais pas en reparler. Donc le Soleil, c'est quasiment toute la masse du système solaire. Hein, vous voyez les chiffres, c'est 99,9% de la masse du système solaire. Donc en dehors du Soleil, il n'y a quasiment pas de masse dans le système solaire. Par contre, pour le moment cinétique, c'est très différent. Alors, le moment cinétique, c'est quoi? C'est ce qui va mesurer en gros la rotation des corps. C'est le produit de la vitesse de rotation par la masse. Là, il se trouve qu'en fait, le Soleil, donc cette quantité de rotation, le Soleil en possède très peu, c'est seulement 2% du moment cinétique du Soleil. Donc, en gros, la quantité de rotation du système solaire se trouve dans les planètes. Alors pourquoi le Soleil a si peu de moments cinétiques, ça fait partie des problèmes actuellement. On n'arrive pas encore trop bien à expliquer pourquoi au cours de la formation des étoiles, on récupère si peu de moments cinétiques dans les étoiles. Donc ça fait partie des problèmes ouverts encore, il y a pas mal de recherches là-dessus. Donc le Soleil, je dis, on ne va pas s'attarder dessus, on va passer à la suite. Alors, premier ingrédient du système solaire, on verra qu'il n'y a pas seulement ça dans le système solaire, c'est les planètes. Alors, les planètes, c'est des choses, vous le savez, qui sont des objets qui sont connus depuis déjà très longtemps. On en connaissait déjà 5 dans l'Antiquité, donc les 5 c'était Mercure, Vénus, la Terre évidemment, Mars, Jupiter et Saturne. Donc, c'est les 5 planètes qui sont visibles à l'œil nu. Alors, il y en a une sixième qui est visible également à l'œil nu, enfin, la limite de visibilité à l'œil nu, c'est celle qui est derrière Saturne. C'est Uranus, mais elle a été détectée bien plus tard, en 1780, on y reviendra dans la suite. Donc, 5 planètes, alors, le planète, l'origine, enfin, l'étymologie, ça veut dire les astres errants, parce que, très tôt, on a constaté que dans le ciel, il y avait un certain nombre de points lumineux qui se déplaçaient, alors que l'immense majorité des autres ne se déplaçaient pas. Donc il y avait ces 5 points lumineux qui se déplaçaient, les planètes. Et on avait remarqué également une chose curieuse pour ces 5 points lumineux, c'est qu'ils étaient quasiment tous dans un même plan. Donc c'est ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, et toutes les planètes, à quelques degrés près, sont dans le même plan, donc il n'y a pas des planètes qui vont avoir des orbites très très inclinées les unes par rapport aux autres. Les unes par rapport aux autres. Alors, il y a encore quelques exceptions, Pluton en particulier. Et donc, c'est à cause de ça, entre autres à cause de ça, que très récemment, Pluton a été déclassé du statut de planète pour passer dans le rang de planète naine. Voilà encore, je vais revenir là-dessus un peu plus tard sur le statut de Pluton et pourquoi est-ce qu'on a eu ce changement. Donc cinq astres reconnus, identifiés. Alors il y en a bien d'autres qui ont été découverts après. Donc le premier qui a été découvert à l'aide d'un instrument, c'est la première planète plutôt. Donc c'est Uranus qui a été découvert par Herschel en 1781. Ensuite on a eu Cérès, donc un astéroïde, donc quelque chose, une petite planète qui fait à peine 1000 km de diamètre. Ensuite, un peu plus tard, Neptune encore, j'y reviendrai, donc, qui a été découverte par le calcul avant d'être découverte par l'observation. Et puis, planète, jusqu'à il y a quelques temps, elle est déplacée maintenant, Pluton, et puis on en a encore découvert tout un tas d'autres. Et là encore, je vais revenir un peu là-dessus après. Alors ces planètes, il y a une loi qui permet de les retrouver, alors c'est ce qu'on appelle la loi de Titus-Bode. Mais c'est une loi qui n'est pas très très satisfaisante pour plusieurs raisons. Donc cette loi, elle est inscrite là. Donc vous avez ce qui est appelé A, c'est le demi-grand axe de l'orbite des planètes. Donc en gros, c'est le rayon de l'orbite des planètes, puisque les planètes ont des orbites quasi circulaires. Et vous pouvez prévoir le rayon des orbites des planètes en donnant le rang N de la planète. Donc la loi, ça dit que c'est le demi-grand axe, c'est 0,4 plus 0,15 fois 2 à la puissance le rang de la planète. Alors on peut faire les calculs, on regarde ce qu'on calcule, on regarde ce qu'on mesure, et puis on compare les deux. Alors le premier problème de cette loi de Titus-Bode, c'est Mercure. Donc là, marqué en rouge, parce que on n'a pas trop le choix. Pour Mercure, il faut lui donner un rang N de moins l'infini, et on ne voit pas trop pourquoi, il n'y a vraiment pas de raison. Et si on ne lui donne pas ce rang de moins l'infini, on n'arrive pas à faire coller la position de Mercure avec les observations. Après, toutes les autres... un certain nombre d'autres planètes collent bien. Vous avez Vénus, rang 1, vous calculez un demi-grand axe de 0,7, vous trouvez 0,72, donc très proche. La Terre, donc ça marche bien. Mars, 1,6 pour un 52, ça marche bien aussi. Et puis quand vous arrivez au rang 4, jusqu'à à peu près il y a 200 ans, il y avait un problème parce que le rang 4, on prévoyait une planète à la distance 2,8. Alors 2,8, oui, j'ai oublié de préciser, tout ça, vous pouvez voir avec le cas de la Terre, c'est en multiple de la distance Terre-Soleil. Donc 2,8, ça veut dire 2,8 fois 150 millions de kilomètres. Donc à ce rang 4, on avait un problème parce qu'on n'avait rien du tout, pas de planète observée. Et donc les astronomes se sont mis à chercher et ont fini par trouver. Et donc ce qu'ils ont trouvé, c'est ce dont j'ai parlé il y a quelques instants, Cérès en 1801, un astéroïde, qui était, donc Cérès, position déterminée, 2,77, donc très très proche de cette valeur de 2,8. Et puis on en a trouvé tout un tas d'autres astéroïdes, on en est actuellement à plusieurs milliers, 20 000 à peu près, dans cette zone ici autour de 2,8 fois la distance moyenne Terre-Soleil. Alors pourquoi est-ce qu'on a tout un tas de petites planètes et pas une planète qui s'est formée comme la Terre? C'est à cause de l'influence de Jupiter. Puisqu'on a Jupiter, une planète énorme avec une très grande masse, qui va perturber gravitationnellement toute cette zone ici autour de 2,8 et qui va empêcher les planètes de s'agglutiner les unes aux autres pour former une planète plus grosse. Et du coup, donc on a ces 20 000 petits corps au lieu d'avoir un gros corps. Alors même si on a 20 000 petits corps, ça fait quand même un total de masse qui est très faible, bien plus faible que la masse de la Terre. On doit être à peu près à la masse de la Lune à peine. Donc même s'il y a beaucoup de corps, donc je vous ai dit, Cérès fait 1000 km, mais c'est un des plus gros. Et il y a quelques dizaines à peine d'astéroïdes qui font plus de 100 km de diamètre. Et puis après, très rapidement, on diminue en taille. Et alors évidemment, plus on diminue en taille, plus il y a d'astéroïdes, mais la contribution à la masse devient extrêmement faible. Alors on continue dans le tableau. Donc rang N égale 5, ça marche bien, on trouve Jupiter. Rang N égale 6, ça marche bien, on trouve Saturne. Rang N égale 7, ça marche bien, on trouve Uranus. Et puis rang N égale, pour Neptune, là, gros problème, parce qu'il n'y a aucun rang qui correspond. Et là encore, on a beau essayer de faire ce qu'on veut, de tripatouiller la loi, etc., on n'arrive jamais à faire coller Neptune dans cette loi. Par contre, pour Pluton, ça marche bien. On retrouve à quelque chose près la bonne valeur. Donc cette loi de Titus-Bode, c'est pas une loi qui résulte de calculs sur le mode de formation du système solaire. C'est une loi qui a été trouvée empiriquement à partir des planètes qu'on connaissait à l'époque, donc Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne. Donc pour ces planètes-là, ça colle bien. Mais il n'y a pas d'assist théorique et c'est un statut un petit peu bâtard, parce que comme je vous ai dit, bon, il y a des trucs qu'on arrive à trouver avec cette toile, et puis il y a quand même un certain nombre de choses pour lesquelles ça ne colle pas. Alors, on commence par un premier groupe de planètes qu'on appelle les planètes internes, donc c'est les quatre planètes qui sont les plus proches du Soleil. Alors, encore une fois, là, elles sont représentées en échelle de taille, mais bah, toujours pareil, pas en échelle de distance au Soleil. Donc, vous avez donc Mercure, Vénus, la Terre, et puis Mars ici. Alors, ces planètes internes, donc on distingue entre planètes internes et puis planètes telluriques. Et puis les planètes externes ou planètes géantes, donc les planètes géantes, c'est Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors c'est pas juste comme ça pour le plaisir qu'on fait la distinction, parce qu'il y a des réelles différences entre les deux groupes de planètes. Pour les planètes telluriques, elles sont essentiellement rocheuses. Vous avez la plus grande partie de la planète est sous forme solide. Et puis vous avez une toute petite atmosphère. Donc souvenez-vous pour ce qu'on a dit pour la Terre. La Terre, c'est un peu plus de 6000 km de rayon, et puis l'atmosphère, c'est au mieux 600 km. Et encore, quand on se souvient de ce qu'on a dit, hein, 600 km, on a des densités extrêmement faibles. La couche qui concentre 90% de l'atmosphère sur Terre, c'est 10 km d'épaisseur, hein, à peu près. Donc, comparé au rayon, terrestre, ça fait vraiment une toute petite valeur. Donc, c'est la même chose pour ces quatre planètes, essentiellement un noyau rocheux. On verra que pour les planètes externes, c'est le contraire. On a un tout petit noyau rocheux, enfin, comparativement à la taille de la planète, et puis une énorme atmosphère. Alors, autre caractéristique de ces planètes, c'est qu'elles ont très peu de satellites. Mercure n'a pas de satellite, Vénus n'a pas de satellite, la Terre a un satellite, et Mars a deux tout petits satellites, Phobos et Deimos, qui font quelques dizaines de kilomètres. Et là encore, ça c'est une différence majeure avec les autres planètes, on verra, les planètes externes ont un très très grand nombre de satellites. Alors, on commence par Mercure. Alors Mercure, on en connaît très très peu de choses. Il n'y a pas beaucoup de sondes qui sont allées voir ce qui se passait sur Mercure. Alors, quand on regarde des images comme ça, ça ressemble beaucoup à la Lune. Il y a beaucoup de cratères. La raison, c'est que sur Mercure, il n'y a pas d'atmosphère. Alors, à cela, il y a deux raisons. La première raison, c'est que, si on revient sur la figure précédente, si vous regardez la taille de Mercure par rapport à la taille de la Terre, c'est tout petit. Donc, il y a une gravité très faible, donc s'il y a une gravité très faible, ça va retenir très faiblement l'atmosphère. Et puis, la deuxième raison, c'est que, comme Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil, à peu près 58 000 km du Soleil, elle est chauffée énormément. Et donc, rappelez-vous, la semaine dernière, vous avez dit qu'au sommet de l'atmosphère de la Terre, il y avait une partie des molécules qui pouvaient s'échapper librement. Elles avaient suffisamment de vitesse pour pouvoir s'échapper à l'attraction de la Terre. Et si vous êtes près du Soleil, que vous chauffez un peu le gaz qui peut y avoir autour de la planète, très rapidement, vos molécules de gaz vont acquérir une vitesse suffisante pour s'échapper de la planète. Et c'est ce qui se passe pour le cas de Mercure. Il y a les deux effets. Le premier effet, très faible gravité. Le deuxième effet, la proximité du Soleil, qui font qu'il n'y a quasiment pas d'atmosphère. Les mesures qui ont pu être faites avec les sondes, c'est au mieux un millionième de l'atmosphère terrestre. Et encore, c'est une limite supérieure. C'est très certainement beaucoup moins que ça. Donc s'il n'y a pas d'atmosphère, on n'est pas protégé par tout ce qui peut dégringoler sur la planète. Le résultat, il est là, c'est quelque chose qui ressemble à la Lune avec des cratères partout. Donc, quand on parlait de la Terre comme de l'atmosphère la semaine dernière comme bouclier, c'est pas juste une image, hein, on voit l'illustration là-dessus. L'atmosphère terrestre a protégé de pas mal de roches qui ont pu arriver sur la Terre et qui se sont consumées en entrant dans l'atmosphère. Alors, évidemment, les plus gros astéroïdes, enfin météorites qui sont arrivés sur la Terre ont pu traverser l'atmosphère sans problème, mais il y en a une grande partie quand même dont on a été protégé à cause de l'atmosphère. Alors il y a une autre chose aussi qui intervient sur la Terre et qui fait qu'on n'a pas une surface aussi cratérisée, c'est toute l'érosion due à l'eau, au vent, etc., qui fait que au bout de quelques dizaines, centaines de millions d'années, toutes les traces de cratères sont rapidement effacées. Alors Mercure, oui, c'est une chose intéressante, l'étude de Mercure, parce que ça a été la première fois qu'on a vérifié, en étudiant Mercure, la théorie de la relativité générale d'Einstein. Donc jusqu'à, jusqu'à Einstein 1916, donc sa théorie de la relativité générale. Donc ce qui donnait les lois de la gravitation, c'était les lois qui avaient été énoncées par Newton et qu'on avait toujours vérifiées jusqu'à cette époque-là. Alors toujours, non pas tout à fait, justement avec Mercure, ça ne collait pas. Alors qu'est-ce qui ne collait pas? C'était en fait le déplacement du périhélie de Mercure. Alors le périhélie, c'est quoi? C'est l'endroit de l'orbite qui est le plus éloigné du Soleil. Donc, je vous ai dit, les planètes ne décrivent pas tout à fait des cercles parfaits, des ellipses. Alors, dans le cas de Mercure, le cercle est un petit peu aplati, c'est assez sensible. Et donc, on peut repérer assez facilement où est le grand axe de l'ellipse. Et puis, on regarde à quelle vitesse le grand axe se décale, puisque, bon, sous l'effet des perturbations des autres planètes, on a un décalage des grands axes. On fait les calculs avec la loi de Newton, et puis on trouve une certaine valeur pour le décalage des grands axes au cours du temps. Alors, il se trouve que ça ne collait pas du tout, il manquait un facteur 6 par rapport aux observations. Et là-dessus, donc 1916, Einstein propose une nouvelle théorie de la gravitation, donc qui prend en compte d'autres effets. L'applique au mouvement de Mercure, et là, retrouve exactement le mouvement de position du périhélie de Mercure qui est observé. Alors pourquoi est-ce que cette théorie d'Einstein est valable ici, mais est sensible surtout pour Mercure? Parce que Mercure, j'ai déjà dit, est très proche du Soleil. Et les différences entre la théorie de Newton de la gravitation et la théorie d'Einstein se font sentir soit quand on a des vitesses qui deviennent comparables aux vitesses de la lumière, donc là on est encore loin pour les planètes, soit quand on a des champs de gravité qui deviennent très intenses. Et il se trouve que comme le Mercure est proche du Soleil, elle est dans une zone de champ de gravité beaucoup plus intense que la Terre. Et du coup, on a des effets qui commencent à se faire sentir sur le mouvement de Mercure. Donc ça a été la première vérification expérimentale de la loi de la relativité générale d'Einstein. Alors cette loi de la relativité générale, elle est vérifiée journellement dans les GPS par exemple. Parce que on peut montrer que vous avez les horloges vont se décaler un petit peu quand elles bougent dans un champ de pesanteur. Et si vous ne tenez pas compte de cet effet, alors c'est un effet qui est pour les satellites qui font le GPS de l'ordre de la microseconde. Alors on peut se dire, la microseconde c'est pas grand chose. Sauf que comme on échange des signaux à la vitesse de la lumière à 300 000 km par seconde, vous multipliez ça par quelques microsecondes et puis vous arrivez à des différences de quelques kilomètres. Donc si on ne prenait pas en compte ces effets de relativité générale dans les satellites GPS, au lieu d'avoir une précision de l'ordre de un mètre en gros dans un récepteur que vous pouvez avoir dans votre voiture, on aurait plusieurs kilomètres. Alors au début d'ailleurs, quand il y a eu les premiers satellites qu'on a commencé à vouloir faire des tests sur le GPS, la relativité générale c'était presque une curiosité de physicien théoricien. Bon, il y a eu, je vous ai dit, la vérification par Mercure, on avait fait des vérifications également au moment des éclipses solaires, des choses comme ça. Mais ça avait quand même le statut de curiosité scientifique. Et les premiers satellites qui ont été envoyés étaient faits par les militaires. Et les militaires disaient, on va pas en tenir compte parce que, on sait pas vraiment si cette théorie est vérifiée. Et puis, comme c'est des militaires, donc ils avaient investi pas mal d'argent dans ces satellites, et sont quand même des gens un peu prudents, ils se sont dit, on va quand même prévoir de pouvoir reprogrammer les satellites au cas où quand même une chaîne aura raison. Et les premiers tests qu'ils ont faits sur le positionnement GPS, sans tenir compte de la relativité générale, ont été catastrophiques. Justement, à cause de ce que je viens de vous expliquer, quelques microsecondes de décalage à 300 000 km/s, ça fait des kilomètres de différence. Ils ont reprogrammé leurs satellites en tenant compte des bons effets, et puis depuis le satellite GPS, ça marche bien. Alors, deuxième planète, Vénus. Alors, Vénus, c'est l'exemple typique d'un emballement de l'effet de serre. La température sur Vénus est énorme, peut atteindre plus de 400 degrés Celsius. Alors, il y a un premier effet, c'est que Vénus est un peu plus près de la Terre que le Soleil, mais c'est pas ça qui explique tout. L'emballement de la température, donc c'est vraiment dû à l'atmosphère de Vénus, qui est essentiellement une atmosphère de dioxyde de carbone, avec un extrêmement fort effet de serre, et qui a fait que la température est 400 degrés actuellement. Donc je l'ai dit la semaine dernière, l'atmosphère initiale de la Terre, c'était aussi quelque chose qui ressemblait à Vénus, beaucoup de dioxyde de carbone, et c'est les organismes vivants qui ont très rapidement modifié la composition de cette atmosphère. Alors, à cause de l'atmosphère, justement, on voit, on voit pas du tout, du moins en lumière visible, on ne voit pas la surface de Vénus. Et pendant très longtemps, on n'a pas su quelle était la période de rotation de Vénus. Jusqu'à dans les années 60-70, on avait des très mauvaises estimations de cette période de rotation. Donc il a fallu qu'il y ait des sondes qui aillent voir un peu plus près, qui aillent voir pas seulement en optique, mais en lumière radar. Donc ça, c'est une image que vous avez en lumière radar, de cette fois-ci de la vraie surface de Vénus qu'on voit à travers les nuages. Et donc on a trouvé une période de rotation qui est extrêmement lente, la rotation de Vénus sur elle-même se fait plus lentement que la rotation de Vénus autour du Soleil. Donc d'une autre façon, un jour sur Vénus, ça dure plus longtemps qu'une année. Alors il y a quelques sondes qui se sont posées sur la surface de Vénus. Donc là, c'est les sondes Venera, donc de l'agence spatiale russe RKA. Et donc ces sondes ont résisté à peu près le temps d'émettre quelques images, 10 à 15 minutes à la surface de Vénus. Et puis après, elles ont complètement explosé à cause de la température, à cause de la pression énorme qui règne sur Vénus, et puis à cause aussi d'autres choses agréables, comme par exemple, je l'ai dit, dans l'atmosphère de Vénus, il y a beaucoup de dioxyde de carbone, mais il y a aussi des nuages d'acide sulfurique qui évidemment n'ont pas contribué à faire durer la sonde très longtemps. Donc Vénus, planète suivante, la Terre, donc là encore, je ne m'y arrête pas, on en a parlé longuement la fois dernière. Donc la Terre qui a, je vous le dis, c'est une des rares planètes intérieures à avoir un satellite, et un satellite de très grosse taille, hein, comparé à la Terre, la Lune, c'est à peu près, le diamètre de la Lune, le tiers du diamètre terrestre. Donc c'est un satellite qui est vraiment très très gros par rapport à la planète. Je vous l'ai dit, Phobos et Deimos, c'est 20 km de diamètre à peu près, comparé à Mars, donc c'est vraiment tout petit. Même les autres satellites des planètes géantes, comparés à la planète, sont tout petits. Alors, l'influence de la Lune n'est pas complètement négligeable. Il y a des travaux qui ont été faits sur la stabilité du mouvement de l'axe de rotation de la Terre. Donc vous savez qu'il y a deux mouvements principaux. Il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement de précession, donc la Terre en fait tourne comme une toupie, un axe de rotation un petit peu incliné par rapport à son plan d'orbite autour du Soleil, et cet axe de rotation fait un mouvement comme ça, un premier mouvement de toupie, en à peu près 23 000 ans. Donc c'est ça qui cause le décalage des équinoxes dans le temps, la précession des équinoxes. Donc savoir dans quelle constellation va se lever le Soleil, vous avez un petit décalage à cause de ce mouvement de précession. Et puis vous avez également autour de ce mouvement de rotation de toupie, un tout petit mouvement comme ça qu'on appelle un mouvement de nutation. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que s'il n'y avait pas la Lune, ces mouvements en particulier le mouvement de précession, seraient complètement chaotiques et on aurait un axe de rotation de la Terre qui, de façon complètement aléatoire, pourrait changer complètement. Donc la Lune a un effet stabilisant sur l'axe de rotation, sur l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Et là encore, ça c'est un facteur important pour l'apparition de la vie, parce que si on a l'axe qui bouge n'importe comment en permanence, on va passer donc des pôles, les pôles vont se retrouver en position de l'équateur, etc., tous les quelques centaines de milliers d'années. Et donc évidemment, ça c'est pas quelque chose de très très favorable à la formation de la vie. Alors, planète suivante, Mars, Mars qui fait fantasmer. C'est une planète qui n'est pas très grande, hein, c'est la moitié de la Terre, qui lui ressemble par certains points de vue. Donc il y a une atmosphère sur Terre, alors moins étendue, de densité plus faible que sur la Terre, mais il y a une atmosphère quand même. C'est une planète qui, pour l'instant, est géologiquement une planète éteinte. Mais qui a été active dans le passé, on voit les traces actuellement. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on voit ici au centre de l'image, c'est le volcan Olympe sur Mars, qui est le plus grand volcan du système solaire, qui fait 26 km de hauteur par rapport au niveau moyen de Mars, donc c'est trois fois la taille de l'Everest. Et donc il y a différents volcans sur Mars, volcans énormes. Donc c'est une planète aussi là, que vous pouvez voir sur l'image, qui a des calottes polaires. Alors on voit pas, sur l'image ici, on voit pas la calotte à l'autre pôle. Alors c'est de la glace, c'est pas de la glace d'eau, majoritairement pas de la glace d'eau, c'est principalement de la glace de dioxyde de carbone. Alors la grande question, c'est de savoir sous quelle forme est l'eau sur Mars. Parce que quand on voit ce genre d'image, par exemple, on a envie de penser à de l'eau qui s'est écoulée. Alors il y a tout un débat actuellement pour savoir si, oui ou non, il y a eu ou pas de l'eau liquide sur Mars. On sait qu'il y a de l'eau, alors sous forme solide, ça c'est une certitude. Après, savoir si elle a pu être sous forme liquide ou pas, c'est un autre problème. Alors il y a un certain nombre de gens qui disent que voilà, ça c'est un cratère d'impact, qui vont dire qu'au moment où il y a eu la météorite s'est écrasée sur Mars, donc ça a chauffé le sol et puis ça a pu faire fondre l'eau, enfin la faire passer d'état solide à liquide, et c'est ça qui a causé ces sillons qu'on voit ici. Alors pour l'instant la question n'est pas tranchée puisque vous avez aussi d'autres arguments assez forts qui disent que ce qu'on voit là c'est pas des écoulements d'eau mais c'est des écoulements de gaz carbonique liquide. Donc pour l'instant, la question n'est pas tranchée. Même chose sur l'éventuelle présence de vie sur Mars. Il y a une dizaine d'années, il y a eu énormément de débats à propos d'une météorite martienne dans laquelle on avait soi-disant retrouvé des traces qui correspondaient à des bactéries minuscules primitives. Et après réanalyse, il se trouve que ces bactéries qu'on a vues, c'était des bactéries en fait, qui venaient de la Terre, il y avait une contamination de la météorite. Et donc les bactéries venaient pas de Mars. Alors c'est une idée très très vieille qui est de la vie sur Mars. Hein. Bien avant, vous avez au 19e par exemple la guerre des mondes à ce sujet. Même jusqu'à encore, il y a une époque récente, on pensait qu'il y avait de la vie sur Mars. Hein. On voit, quand on regarde au télescope, on voit des changements de couleur sur Mars. Alors ces changements de couleur, on a pensé pendant longtemps que c'était dû à de la végétation. Et en fait, on sait maintenant que ce n'est pas de la végétation, mais que c'est des tempêtes de sable qui se lèvent de temps en temps. Parce que Mars, par certains points de vue, ressemble beaucoup à la Terre. Mais en particulier, l'inclinaison de l'axe de rotation de Mars sur le plan de son orbite est quasiment similaire à celui de la Terre. La durée de rotation de Mars sur elle-même, même chose, c'est très proche de celui de la Terre, c'est une demi-heure de ce qu'il s'appelle. Et donc du coup, à cause de ça, on a comme sur la Terre, on a sur Mars des saisons très marquées. Et vous avez des saisons des tempêtes qui déclenchent ces grandes tempêtes qui peuvent obscurcir une autre partie de la face de Mars. Et c'est ça qui provoque les changements de couleur et pas la végétation. Alors au début, pendant trop longtemps, on a pensé que Mars était habité. Au début du XXe siècle, il y a un concours qui avait été lancé pour qui donnait je ne sais plus combien de francs à l'époque à la première personne qui pourrait entrer en contact avec une intelligence hors de la Terre. Et dans le règlement du concours, il était précisé explicitement que les tentatives de contact avec Mars étaient interdites parce que c'était trop facile, qu'on savait déjà qu'il y avait quelqu'un. Et bon, alors maintenant, évidemment, on a envoyé des sondes, on n'a vu personne, mais pendant très longtemps, on a vraiment cru très très fortement qu'il y avait de la vie sur Mars. Alors, oui, je vous disais, les satellites de Mars, deux tout petits satellites, un Phobos et Deimos, vraiment, je vous ai dit, une vingtaine de kilomètres. Donc rien à voir du tout avec avec la Lune, par exemple. Alors là, ça c'est juste une image d'un panorama martien. Maintenant, on connaît Mars même presque mieux que la Terre, avec toutes les sondes qui ont été envoyées, Opportunity, Spirit récemment. On sait maintenant aussi faire très bien la météorologie martienne. Et on sait même la faire beaucoup mieux que sur Terre, parce que sur Mars, c'est plus facile que sur Terre. Alors ça paraît un peu paradoxal, mais en fait, ce qui complique beaucoup la météo sur Terre, c'est la présence des océans. Parce qu'on ne sait encore pas très bien décrire ce qui se passe comme échange entre l'atmosphère et l'océan. Et comme sur Mars, il n'y a pas d'océan, on n'a pas ce genre de problème. La géographie est très bien connue. Hein, maintenant, on a des endroits... quasiment toute la surface de Mars est connue à mieux que 10 mètres près pour pâtir 1 mètre près. Et du coup, on arrive très très bien à simuler le climat martien. Alors, les astéroïdes, donc je vous ai dit, on les a découverts à partir au début de la loi de Titus-Bott qui a donné une indication de là où ils devaient se trouver. Donc là, vous en avez une image, donc vous avez les planètes intérieures qui sont ici. Jupiter par là, et puis tout un paquet d'astéroïdes quelque part entre les deux. Donc je vous dis, on en connaît à peu près 20 000 maintenant, mais très certainement il y en a beaucoup plus. Et périodiquement, il y en a qui viennent couper l'orbite des planètes intérieures dans la Terre. Bah, toujours pareil, principalement sous l'effet des perturbations gravitationnelles de Jupiter qui vont éjecter les astéroïdes de leur endroit entre Mars et Jupiter pour les amener vers la Terre. Alors évidemment, de temps en temps, il y en a qui viennent s'écraser sur Terre. Alors il y en a eu beaucoup dans le passé, maintenant, comme évidemment ils sont tous tombés, il y en a beaucoup moins, mais régulièrement on en trouve. En particulier, il y a un peu plus de 15, c'était en 1992, on a découvert un astéroïde qui faisait plus de 50 mètres de diamètre, qui est passé à 200 000 km seulement de la Terre. On peut se dire, ouais, 200 000 km, ça fait beaucoup, ça fait pas beau, ça fait vraiment pas beaucoup, c'est la moitié de la distance Terre-Lune. Donc c'est vraiment très très proche de la Terre. Et on l'a découvert en plus cet astéroïde au tout dernier moment parce qu'il s'approchait de la Terre du côté Soleil et pas du côté Nuit. Donc on n'a eu quasiment aucun moyen de le voir, sauf au tout dernier moment. Alors pour vous donner une petite idée, je vous ai dit, des astéroïdes, il y en a qui tombent sur la Terre. En termes de masse, chaque année sur la Terre, c'est 40 000 tonnes de météorites qui tombent. Alors sauf que évidemment, ça ne tombe pas en une seule fois, mais l'immense majorité, ça tombe sous forme de toutes petites poussières qui font un milligramme, un centième de gramme, etc. Quand elles ont ces masses-là, dès qu'elles arrivent dans la haute atmosphère, elles sont freinées, puis elles tombent tout doucement sur Terre. Vous en avez tout un paquet aussi qui vont être brûlés dans l'atmosphère et qui vont en forme de poussière. C'est par exemple toutes celles qui brûlent plus d'étoiles filantes. Ça, les étoiles filantes, c'est à peu près des météorites qui font un gramme. Donc c'est vraiment l'immense majorité des corps qui arrivent sur Terre qui sont de toute petite masse. Vous avez de temps en temps une météorite qui fait 1 kg, encore plus rarement quelque chose qui fait 10 kg, et puis les météorites qui font plusieurs kilomètres. Ça, c'est tous les dizaines ou centaines de millions d'années. La plus connue, c'est celle qui est tombée il y a à peu près 65 millions d'années, là au large du Mexique, et qui a été une des causes probables de l'extinction des dinosaures. Alors, pour revenir sur ces astéroïdes, je vous l'ai dit, ils se trouvent ici dans cette zone entre Mars et Jupiter, et puis on en trouve également deux groupes assez particuliers qu'on appelle. Alors là, c'est sur l'image que j'ai récupérée. Ils sont appelés tous les deux les Troyens. En fait, il y a un groupe qui s'appelle les Troyens et l'autre groupe qui s'appelle les Grecs, et qui sont à des points particuliers qui s'appellent les points de Lagrange. Donc, c'est des points de Lagrange, du système Jupiter-Soleil, et c'est des endroits où l'influence gravitationnelle du Soleil et de Jupiter sont équivalentes. Et on peut montrer que c'est des endroits stables ou dans lesquels on peut accumuler comme ça de la matière. Et donc, vous avez deux groupes d'astéroïdes, donc les Troyens et les Grecs, qui tourne en même temps que Jupiter autour de son orbite. Alors, ces astéroïdes, leur géométrie, c'est quelque chose d'assez régulier, alors, sauf pour les plus gros, je vous ai dit, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, Cérès, par exemple, 1000 km, vous en avez quelques-uns qui font quelques centaines de kilomètres. Donc, ceux-là sont à peu près sphériques. Les autres s'éloignent très fortement de la sphère. Hein. Vous avez, par exemple, ici l'astéroïde Ida, donc deux vues différentes. Donc quelque chose de très différent d'une sphère. Et puis, là encore, c'est assez curieux de voir que celui-là a un tout petit satellite qui tourne autour de lui. Donc une surface très cratérisée, pour la même raison que pour Mercure, hein, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc rien pour protéger. Alors il y a des missions qui sont prévues pour poser des sondes sur des astéroïdes et puis pouvoir essayer les étudier d'un peu plus près. Alors la principale difficulté de ces missions, ça va être de se poser sur l'astéroïde et de ne pas rebondir. Parce que évidemment, quand on est sur Terre, on a une gravité qui est assez forte. Et quand on lâche quelque chose près de la Terre, ça va tomber tout droit sur la Terre. Quand on a un corps ici comme Ida, alors je ne sais plus la taille, mais ça doit être à peu près 50 km de diamètre, la gravité est toute faible. Et si vous arrivez un peu trop rapidement avec votre sonde, la gravité de l'astéroïde est tellement faible que l'astéroïde ne va pas être capable de retenir la sonde, donc la sonde arrive, paf, rebondit, elle repart, et envoie l'astéroïde, on n'arrive pas à se poser dessus. Donc il faut arriver vraiment avec une vitesse minuscule par rapport à l'astéroïde pour rester en contact et pas rebondir dessus. Alors, les géantes gazeuses maintenant. Donc là encore, c'est une image dans laquelle les tailles sont respectées, les tailles des planètes sont respectées, mais là, toujours pareil, les distances au Soleil ne sont pas respectées. Donc Jupiter ici, Saturne, Uranus et Neptune. Alors toutes les planètes, bon, je vais le montrer après, c'est toutes les planètes gazeuses, donc j'ai dit, contrairement aux planètes telluriques, ont un cœur tout petit par rapport à la taille de la planète, et une immense atmosphère. Alors, Jupiter, par exemple, c'est 1000 fois à peu près la masse de la Terre, et son corps doit faire à peu près une vingtaine de masses terrestres. Alors, bon, ça fait 20 masses terrestres, ça fait quand même 20 fois la masse de la Terre, c'est déjà pas mal, mais comparé à la masse de Jupiter, c'est vraiment très faible. Et donc, tout le reste, c'est une enveloppe gazeuse. Et c'est la même chose pour les autres planètes. Vous avez à chaque fois un petit cœur solide et une énorme atmosphère gazeuse. Alors, autre caractéristique de ces planètes externes géantes, elles ont toutes énormément de satellites. Jupiter, on en a plus de 20 connus. Saturne, même chose, plus de 20. Uranus et Neptune, pas tout à fait autant, mais c'est plus de 10 satellites également. Et elles ont toutes également un système d'anneaux. Alors évidemment, le plus connu de loin, c'est Saturne, mais Jupiter, Uranus et Neptune ont également des anneaux. Alors on commence par Jupiter, donc là les anneaux sont très très faibles, hein. On les voit ici avec donc le Soleil qui est à l'opposé de Jupiter. Donc Jupiter, c'était le dieu des dieux, donc ça mérite bien son nom. C'est la planète la plus grosse du système solaire et elle est même, sa masse est même plus grosse que la somme de toutes les masses des autres planètes. Et pourtant, je vous rappelle, c'est moins de 0,1% de la masse totale du système solaire. Donc la planète la plus grosse. Alors Jupiter, c'est donc je l'ai dit, on la connaît depuis l'Antiquité. Il y a une chose remarquable aussi qu'on connaît depuis longtemps sur Jupiter, qu'on connaît en fait depuis les observations de Galilée, les premières observations de Galilée en 1609. C'est cette chose-là ici qu'on appelle la grande tache rouge. Alors la grande tache rouge, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'énorme cyclone qui perdure, qui existe encore actuellement. Donc plus de 400 ans après, on a toujours ce cyclone qui existe et qui ne semble pas perdre d'intensité, ou du moins pas notablement. Et là encore, ça fait partie des choses qu'on ne sait pas trop bien expliquer. Pourquoi est-ce qu'on arrive à maintenir un cyclone aussi longtemps? Alors ici, vous avez une animation de la circulation atmosphérique de Jupiter. Donc vous avez énormément de mouvements, une structure en bande. Et ça, la structure en bande, ça vient de ce que Jupiter tourne très rapidement sur elle-même, c'est une dizaine d'heures sur elle-même. Donc je l'ai dit, pour une planète qui est 10 fois en rayon, 10 fois plus grande que la Terre, donc ça tourne assez rapidement. Et comme pour la Terre, du fait de la rotation, vous avez un aplatissement de Jupiter. Et un aplatissement qui est assez sensible. Si vous regardez, même dans un petit télescope, ça se voit sans problème que Jupiter est aplati au pôle. Alors, autre chose qu'on voit sur l'animation et qu'on voit aussi ici, vous voyez apparaître des petits points noirs de temps en temps. Alors, ces petits points noirs, c'est quoi? C'est l'ombre des satellites de Jupiter. Il y en avait quatre principaux, et donc les satellites qui ont été découverts par Galilée. Comme s'il y avait une éclipse de soleil sur Jupiter à cet endroit-là, cachée par une des lunes. Alors voilà, les satellites qu'a vu Galilée sont ici, donc il y en a quatre, c'est Io, Europe, Ganymède et Callisto. Alors ces satellites ont de l'importance parce que ça a été un des arguments de Galilée pour asseoir la théorie de Copernic qui disait que la Terre n'était pas au centre de l'univers mais que c'était le Soleil. Alors depuis on sait que le Soleil n'est pas non plus au centre de l'univers, mais la théorie de Copernic trouvait beaucoup plus simple de décrire le système solaire en disant que le Soleil était au centre et pas la Terre comme on le disait jusqu'à présent. Alors, comment est-ce que Galilée s'est servi de ses satellites? Il a observé leur mouvement. Et ce qu'il a pu montrer, c'est que le mouvement de ces quatre satellites galiléens était en fait un mouvement de rotation autour de Jupiter, de la même façon, disait-il, que les planètes orbitent autour du Soleil. Donc, ce que Galilée disait, c'est que si on trouve des corps qui n'orbitent pas autour du Soleil dans le système solaire, qu'il y ait des différences dans le système solaire. Donc ce que disait Galilée, c'est que c'est le corps le plus gros qui va mener la danse des orbites, et donc le corps le plus gros c'est le Soleil. Donc les différents corps doivent orbiter autour du Soleil et pas autour de la Terre. Alors, il y a des tas de choses intéressantes à voir sur ces satellites. En particulier, là vous avez une image de Io où on voit un volcan ici. Alors c'est des volcans de soufre. Le soufre en fusion. Alors le soufre en fusion, c'est à plusieurs centaines de degrés. Alors c'est pas le soleil qui va permettre d'atteindre ces températures. parce que là, on est à Jupiter, c'est 750 millions de kilomètres de la Terre, du Soleil. Donc, si avec le rayonnement solaire pour chauffer, on serait très loin de pouvoir atteindre la température de fusion. Ce qui va se passer, c'est des effets de marée avec Jupiter. Alors, souvenez-vous, les effets de marée, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est le fait que vous avez une attraction différentielle entre différents points d'un corps vis-à-vis d'un gros corps central attracteur. Si vous avez un corps qui a une forme donnée, les points qui sont le plus près du corps attracteur vont être attirés plus fort que ceux qui sont loin du corps attracteur. Donc ça va avoir tendance à déformer les corps. Et si vous avez une rotation sur eux-mêmes des corps, vous avez une déformation qui va se propager dans le corps. Et ça, ça ne se fait pas tout seul. Vous avez toujours des frottements à l'intérieur qui vont dissiper de l'énergie. Et c'est ce frottement, cette dissipation d'énergie qui chauffe suffisamment l'eau pour avoir du soufre sous forme liquide en geyser, en volcan. Alors Saturne maintenant, là aussi, très connu pour ses anneaux, qu'on connaît depuis encore très longtemps. Alors Galilée les avait observés, mais sans parler d'anneaux, la qualité de sa lunette n'était pas suffisante pour lui faire voir les anneaux. Ce qu'il voyait, c'était deux espèces de petites excroissances de chaque côté de Saturne, mais il n'avait pas réussi vraiment à les identifier. C'est un peu plus tard, c'est bien, quelques dizaines d'années plus tard, quand la qualité des lunettes astronomiques s'est améliorée, qui a pu décrire ces anneaux. Donc l'image que vous avez là, on voit vraiment l'extension très grande des anneaux. On a ici, l'image a été prise avec le Soleil pile derrière Saturne, donc il éclaire tout le système d'anneaux à contre-jour. Alors dans ces anneaux, il y a tout un tas de structures, hein, vous voyez, il y a des zones ici où plus sombres, où il n'y a pas de matière, des zones où il y a plus de matière. Vous avez des petits satellites dans ces anneaux, on en connaît plusieurs dizaines pour Saturne. Donc là, c'est dans un des anneaux, il y a un satellite qui s'appelle Pan, ici, c'est le petit point blanc. Et vous voyez le trait noir qu'on voit ici, c'est en fait l'ombre de ce satellite sur le reste des anneaux. Alors ces anneaux sont vraiment extrêmement fins. Pour les plus fins d'entre eux, c'est quelques dizaines de mètres d'épaisseur seulement. Et ils font plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de diamètre. Donc si vous calculez le rapport entre l'épaisseur et puis la taille, ça fait 1 pour 100 000 à peu près. Donc pour vous donner une idée, c'est le même rapport qu'il y a entre l'épaisseur d'une feuille de papier qui ferait 10 mètres de long à peu près, ou même voire plus. Donc c'est vraiment quelque chose de extrêmement, extrêmement fin. Alors, pendant longtemps, là encore, les anneaux de Saturne, ça a posé problème parce qu'on ne comprenait pas comment ils pouvaient encore exister. Parce que si on fait des calculs sur le tendu de ce type de système, donc les anneaux de Saturne, en fait, c'est tout un tas de petites particules microscopiques, disons jusqu'à quelques mètres de diamètre, éventuellement aussi un peu plus gros quand il y a des satellites, mais la plupart sont petits. Donc si on fait des calculs sur le temps de vie de ce système, c'est quelque chose qui est bien inférieur à la durée de vie de Saturne, aux 4,5 milliards d'années du système solaire. Et donc pendant longtemps, on n'a pas compris pourquoi, c'est quand on a envoyé les sondes, quand on a vu les satellites, certaines images aussi de transfert de matière entre petits satellites et les anneaux. Donc on a compris ce qui se passait. En fait, si les anneaux de Saturne existent encore, c'est parce qu'en permanence, ils sont réalimentés en matière. Par exemple, parce que vous avez des collisions entre les petits corps, etc., qui vont libérer de la poussière, des petits grains, et qui vont en permanence redonner de la matière dans les anneaux, qui sans ça, disparaîtraient assez rapidement. Alors, il y a plusieurs dizaines de satellites sur Saturne. Il y en a un qui a fait pas mal parler de lui il y a 5-6 ans, au moment de la mission Cassini-Lutien. C'est le satellite Titan sur lequel une sonde de l'Agence spatiale européenne s'est posée. Donc là, vous avez une image quand la sonde était à l'approche, où on voit des sortes de montagnes, des choses comme ça. Et puis ça, c'est une image de quand la sonde était sur le sol. Elle a réussi à se poser complètement sur le sol. Et on voit des cailloux, donc on a... ce qu'on voit ici, c'est des cailloux, et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des cailloux assez ronds. Donc s'ils sont assez ronds, les cailloux ne sont pas naturellement ronds, ils sont plutôt ondulés. Donc ça veut dire qu'il y a d'une manière ou d'une autre, il y a des érosions, certainement des érosions par le vent, Les roches par du lycée également, puisqu'on a trouvé des espèces de lacs sur Titan. Alors par contre, c'est pas des lacs d'eau, c'est des lacs de métallique, la température là-bas. Et encore, la découverte de ce genre de choses a relancé les débats sur la possibilité de la vie ailleurs que sur Terre. Alors évidemment, ce ne sera sans doute pas une vie qui serait semblable à celle de la Terre, mais quand on commence à avoir donc sur Titan, il y a une atmosphère qui est assez importante, des surfaces, des montagnes, des surfaces solides, des zones liquides, etc. On a envie de penser que la vie peut être possible. Alors pour l'instant, évidemment, on n'en est pas à savoir s'il y a de la vie sur Titan, mais sur tous les satellites, pas tous les satellites, mais sur certains satellites de Saturne, certains satellites de Jupiter, justement à cause de la présence d'éléments liquides, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas de la vie qui aura pu exister. Je vous ai dit aussi également, quand on parlait de Jupiter, entre autres, le satellite était réchauffé par les effets de marée. Donc, c'est des choses qui ne sont pas encore vérifiées actuellement, mais ce qu'on pense, c'est qu'il y a dans un certain nombre de satellites, on pense que l'échauffement par les effets de marée, soit à Saturne ou soit à Jupiter, est suffisamment important pour avoir une température relativement élevée dans ces satellites, même qu'ils soient très loin du Soleil. Et finalement, en dessous, par exemple, une espèce de croûte de glace, glace de méthane, d'ammoniac, on pourrait trouver des conditions beaucoup plus clémentes avec des températures finalement peut-être pas si éloignées que ça de celles de la Terre. Et évidemment, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur Terre, tout ce qui se passe par exemple dans les fonds marins où c'est probablement là que la vie a émergé, là encore, on a envie de penser qu'il y a pu se passer le même genre de choses dans ces astres. Alors, Uranus, là encore, c'est une planète, comme je vous l'ai dit, qui a des anneaux. On les voit ici, donc ça c'est une image les anneaux ont été un petit peu, c'est en fausse couleur ici, c'est pas les couleurs naturelles, donc c'est pris dans l'ultraviolet. Un système d'anneaux toujours pour Uranus, et là encore des satellites nombreux, par exemple là vous en avez un, il s'appelle Ariel, et quand on a envoyé les sondes là-dessus, ça a été une vraie surprise de voir qu'on avait des satellites aussi différents autour de ces planètes. Donc vous voyez, il y a plein de structures ici. On ne voit pas bien sur cette image, mais sur certaines, on voit des espèces de grandes cassures, la surface est en glace, là ça va être en glace de méthane aussi, comme s'il y avait des espèces de ruptures, comme on pourrait voir, de ruptures dans la banquise. On a trouvé, avec étonnement, le même type de structure sur ces astres extrêmement loin du Soleil. Donc Uranus, je vous ai dit, c'est la première planète qui a été découverte par un télescope. Alors en fait, on l'avait vu bien avant. Galilée même l'avait observé. On en trouve la trace dans ses observations, mais il l'a pas noté comme une planète. Il l'a vu comme une étoile. Le plus étonnant, c'est qu'il a vu que c'était une étoile qui se déplaçait. Bien que Galilée soit un excellent observateur, il a raté Uranus. Alors Neptune, là encore, toujours pareil, c'est une planète à anneaux. C'est des anneaux un peu moins intenses que les autres. Donc on les voit ici sur cette image. Alors s'il y a un cache noir au milieu, c'est pour éteindre la planète et pour faire mieux ressortir les anneaux, puisque sinon la luminosité de la planète sera trop importante et ça tuerait complètement les détecteurs et du coup les anneaux ne seraient pas visibles. Mais n'empêche que ces anneaux sont bien visibles. Alors, les anneaux de Uranus et Neptune, on les a vus bien avant, on les a vus avant que les sondes aillent sur place se rendre compte de ce qui se passe. On a été certains de leur existence à la fin des années 70. Alors comment on s'y est pris? On s'y est pris avec des occultations d'étoiles. Donc c'est ce qui se passe quand vous avez une étoile qui passe derrière une planète. Une éclipse d'une étoile par une planète. Et évidemment, si vous avez des anneaux autour de la planète, vous avez la lumière qui ne va pas s'éteindre de la même façon que si vous n'avez pas d'anneaux autour de la planète. Et donc, grâce à ce système, on avait pu, en repérant une extinction qui venait un peu plus tôt que ce qui était prévu, on avait pu comme ça déterminer qu'il existait des anneaux autour d'Uranus et de Neptune. Alors ce système d'occultation, c'est aussi de cette manière-là qu'on a pu déterminer d'un certain nombre d'astéroïdes. Parce que si on mesure le temps que dure l'occultation d'un astéroïde en différents points de la Terre, comme on a différents points de vue sur l'astéroïde des différents points de la Terre, en recoupant les observations, on arrive comme ça à remonter à la forme des astéroïdes. Et pour, dans certains cas, on a pu comparer avec des observations in situ de sondes, et ça correspondait bien à ce qui avait été observé. Alors là encore, sur Neptune, vous avez tout un tas de satellites et qui ont là encore des caractéristiques auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Je vous parlais de fissures tout à l'heure, là on envoie une fissure ici sur la surface gelée de ce corps. Alors, toutes les quatre planètes géantes ont des champs magnétiques. Alors, Uranus et Neptune, elles ont des particularités, c'est que leur champ magnétique, l'axe du champ magnétique est complètement décalé par rapport à l'axe de rotation de la planète. Pour la Terre, on l'a vu la semaine dernière, bon, il y a un petit décalage, mais c'est quelques degrés. Dans le cas d'Uranus et Neptune, on en est à 45 et 60 degrés de différence. Et là encore, ça fait partie des choses qui ne sont pas très bien comprises, de savoir comment est-ce qu'on peut avoir un axe du champ magnétique qui est autant décalé que ça de l'axe de la planète. Alors, on passe maintenant à une autre classe de planètes. Alors, Pluton, donc ça a été découvert en 1930, et jusqu'à il y a 3-4 ans, c'était considéré comme planète. Maintenant, ça a été déclassé du rang de planète, et c'est placé dans la catégorie des planètes mineures. Et en fait, Pluton, c'est très certainement le premier représentant de toute une classe d'objets qu'on trouve dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, qui est un ensemble de petites planètes de la taille de Pluton ou plus petit, donc, et qui se trouve au-delà de Neptune. Alors Pluton, donc, c'est quelque chose qui fait à peu près 2000 km de diamètre, et là encore, c'est un astre assez particulier, parce que si vous regardez ici, c'est une des rares des images les plus précises qu'on a de Pluton. Vous avez un satellite Charon qui est très très près, c'est 20 000 km de Pluton, comparé à la distance Terre-Lune, 400 000 km. Et c'est un satellite qui est très gros, là encore, par rapport à Pluton. Ça fait à peu près la moitié de la taille de Pluton. Donc Pluton, c'est un corps assez étrange, donc avec un très très gros satellite. Alors là encore, les images de Pluton qu'on a, pour l'instant, il n'y a pas de sondes qui sont allées. Donc ce qu'on a de plus précis, c'est les images qui sont ici, prises par le satellite Hubble. Et donc, on voit pas beaucoup de détails sur Pluton, on n'en sait encore pas grand-chose. Alors, comme je disais, Pluton, c'est certainement le représentant d'une nouvelle classe d'objets, donc on appelle les objets de la ceinture de Kuiper. Et il y a une vingtaine d'années, on connaissait que Pluton dans cette catégorie, et maintenant on en a plusieurs centaines. Alors, le temps de découverte a démarré réellement en 1992, donc avec un autre de ces corps, donc qui s'appelle simplement 1992 QP1, qui a été découvert donc bien au-delà de Pluton. Alors comment on s'y est pris? Ça a été un peu une traque systématique. On a pointé les télescopes et puis on a regardé s'il n'y avait pas des objets qui se déplaçaient dans le champ, puisque les planètes se déplacent autour du Soleil. Et là, si vous voyez, sur quatre photos prises à quatre instants différents, vous avez l'astre qui se déplace. Donc les autres étoiles restent, elles, au même endroit. Et par contre, vous avez des traces un peu plus allongées. Et ces traces un peu plus allongées, c'est des astéroïdes. Donc ça, des astéroïdes qui sont beaucoup plus proches que Pluton. Donc comme ils sont beaucoup plus proches de Pluton, ils se déplacent plus rapidement. Et pendant le temps de la pause, comme ils se déplacent, ils ne restent pas ponctuels et ils font une espèce de ligne ici. Alors que Pluton, cet astre ici, même s'il se déplace au cours du temps, pendant une pause, il reste quasiment à la même place. Alors vous avez un de ces autres astres, donc dans les plus gros, qui a été découvert, donc il s'appelle Kawar. Et on voit une petite animation ici où nettement on voit le mouvement de cet astre par rapport au reste du ciel. Alors dans les nouveaux astres qui ont été découverts, on a emprunté différentes mythologies jusqu'à Pluton, on était resté dans la mythologie gréco-romaine. Et à partir de là, on a emprunté dans la mythologie hawaïenne en particulier, puisque la plupart de ces planètes, de ces petites planètes, ont été découvertes avec des télescopes qui sont situés à Hawaï. Donc on a appris la mythologie d'Hawaï pour leur donner un nom. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à rechercher ces objets, puisque on pourrait se dire pourquoi les chercher là, il n'y avait pas vraiment de raison de penser qu'il y en avait. Alors en fait, si, il y avait des raisons. Et les raisons viennent de l'observation des comètes. Alors on a deux grands types de comètes. Il y a des comètes qu'on appelle à courte période, donc qui vont revenir très régulièrement autour du Soleil, en moins de 10 ans, on va dire. Et puis vous avez des comètes à longue période, plus de 20 ans, c'est la comète de Halley qui revient tous les 76 ans. Et donc il y avait un problème avec ces comètes à longue période, puisqu'il y a un astronome néerlandais qui s'appelle Jan Oort. Au début des années 50, donc avait étudié le mouvement de ces comètes à longue période, et en étudiant avait vu que la plupart avaient une orbite donc très allongée et qu'ils devaient venir de très loin dans le système solaire. Là encore, j'en dirai quelques mois après. Et donc ça s'appelle maintenant depuis la ceinture de Oort. Et donc il proposait ça comme explication pour les comètes à longue période. Alors sauf que ça marche pas tout à fait. Parce qu'il y a un certain nombre de comètes à longue période qui sont toutes quasiment dans le plan de l'écliptique. Et ces comètes qui viennent du nuage de Oort, si on fait les calculs, on montre qu'elles ont à peu près toutes les inclinaisons par rapport au plan de l'écliptique. Et on n'arrivait pas à expliquer pourquoi on avait autant de comètes que ça qui étaient proches du plan de l'écliptique. Et la seule raison qu'il pouvait y avoir, c'est qu'en plus de ce nuage de Oort, donc de ce réservoir à comètes, il devait y avoir un autre réservoir à comètes, cette fois-ci beaucoup plus proche, situé à peu près dans les environs de Neptune, un peu au-delà. Et celui qui a postulé cette idée, là encore c'est un Hollandais qui s'appelle Kuiper. Au début des années 90, on s'est mis à rechercher ces objets de Kuiper, et donc on en est maintenant à plusieurs centaines de trouvés. Alors voilà, donc là vous avez une petite animation qui vous montre l'évolution du système solaire au cours du temps. Donc tous les petits points, donc les cercles, ça représente les orbites des différentes planètes, et les petits points verts, donc c'est justement ces objets de la ceinture de Kuiper. Alors si vous regardez ce qui se passe, donc vous avez le temps qui déroule ici, au tout début tout se passe bien, les petits cercles restent bien où il faut, et puis il y a un moment, il arrive une catastrophe. Donc ce qui va se passer, c'est que les orbites de Saturne et Jupiter vont avoir un lien très particulier entre elles. En fait, ce qui va se passer, c'est que pendant que Jupiter va faire un tour autour du Soleil, Saturne va en faire exactement deux. Et donc vous avez des effets gravitationnels qui vont s'intensifier, s'accumuler. Et c'est ça qui, d'un seul coup, va faire éclater le système des petits objets de Kuiper et va les disperser, les éparpiller un peu partout dans le système solaire. Et donc, si vous regardez la date qui est indiquée là, c'est à peu près le grand chamboulement, ça se passe autour de 800-900 millions d'années. Et on trouve la trace de ce bombardement intense dans le système solaire. Hein. Si vous regardez les corps comme la Lune, Mercure, etc., on peut dater la date d'apparition des cratères, mais on voit nettement que vers ces 900 millions d'années, il y a un pic très important de bombardement météoritique et qu'on arrive ici à expliquer par le calcul. Pour revenir sur la ceinture de Kuiper, donc vous disiez, c'est des astres assez petits, donc vous avez ici toujours pareil à l'échelle en taille de planète. Donc la Terre, la Lune, Pluton, donc en bas de la Lune, Kaoar, donc je vais vous montrer l'image ici là, qui bougeait. Et puis un autre parmi les plus gros qu'on appelle Sedna, donc vous voyez, c'est des astres qui font au mieux la moitié de la taille de la Lune, donc relativement petits, on va dire 1000-1500, au mieux 2000 km de Pluton. Et alors là encore, on a tout un tas de ces astres, je vous dis plusieurs centaines, mais la masse cumulée est très faible. Hein, là encore, on est à moins de 1/10 de la masse de la Terre si on rassemble tous les astres qu'on connaît jusqu'à présent. Alors vous en avez une représentation ici. Donc vous avez l'orbite de Jupiter ici. Enfin, c'est le cercle plus intérieur, donc Saturne, Uranus, Neptune. Donc un certain nombre d'astéroïdes par là. Et puis les objets de la ceinture de Kuiper qui apparaissent ici autour. Donc, et vous avez Pluton qui est la croix dans le cercle blanc. Donc maintenant on connaît plusieurs centaines de ces objets, de ces objets de la ceinture de Kuiper, qui sont, si vous regardez les tailles, un groupe de taille comparable à Pluton, Et c'est ça, qui, c'est une des raisons qui vont amener à faire perdre à Pluton son statut de planète. Parce que sinon, il fallait n'y avait pas de raison de décliner les autres. Il aurait fallu en mettre des centaines et des centaines. Donc on l'a dit, c'est pas une planète, c'est une planète mineure. Alors, là, on a beaucoup parlé de la taille de relative des planètes les unes par rapport à l'autre ou l'autre. Donc les distances, je peux utiliser toutes données. Donc Mercure, c'est 50 millions, presque 60 millions de kilomètres du Soleil. Vénus, 110 millions. La Terre, 150 millions de kilomètres du Soleil. Mars, c'est 220 millions. Jupiter, 750. Mercure, on pourrait faire la liste comme ça. Saturne, 1,4 milliard, etc. Bon, c'est pas des chiffres qui sont forcément parlants. C'est un peu plus parlant quand on fait des choses à l'échelle. Donc l'échelle là, que j'ai pris, c'est 1 cm pour 1 million de kilomètres. Donc à cette échelle-là, Vénus est à 58 cm du Soleil. Et puis si vous regardez la planète la plus lointaine, enfin ce qu'on considérait juste un peu comme la planète la plus lointaine, Pluton, elle est à 59 mètres. Donc c'est 100 fois plus lointain. Et là encore, je répète, Pluton, c'est quelque chose de tout petit, donc il y a énormément en fait de vide. Pour revenir sur les astéroïdes, la ceinture de Kuiper, quand on parle de ceinture d'astéroïdes, souvent on a l'image de science-fiction d'un vaisseau qui essaye de faire du zigzag entre les astéroïdes, etc. Dans la réalité, c'est pas aussi palpitant. Même s'il y a 20 000 astéroïdes connus, comme ils s'étalent sur des millions, pour pas dire des milliards de kilomètres, vous avez en général plusieurs millions de kilomètres entre les astéroïdes. Donc vous avez jamais ces images de science-fiction avec des tas d'astéroïdes collés, quasiment collés les uns les autres. C'est vraiment quelque chose de très 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 lâche, un regroupement très lâche, avec beaucoup de distance entre les corps. Alors, les comètes, là encore, je vous dis, c'est l'étude des comètes qui a amené à parler de ceinture de Kuiper et puis de ceinture de Oort, un nuage de Oort. Donc c'est l'étude particulièrement donc des comètes à longue période qui a amené à postuler donc l'existence d'une sorte de réservoir de comètes qui, alors cette fois-ci situé très loin, quasiment à peu près à une année-lumière du Soleil. Et justement parce que donc Oort, en étudiant l'orbite de ces comètes à longue période, avait remarqué qu'il y en avait beaucoup qui avaient leur point le plus éloigné du Soleil, qui était justement dans ces distances-là, quasiment une année-lumière du Soleil. Alors vous avez relativement fréquemment des comètes très très visibles qui passent près de la Terre. Il y en a une célèbre, donc Albop en 1997, donc qui était facilement visible à l'œil nu et même quasiment en plein jour. Puis plus récemment, il y a à peu près 2 ans, la comète Macnaught, alors là qui a été visible par contre assez peu de temps, assez basse sur l'horizon, mais là aussi très très lumineuse. Elle est bien visible depuis la France. Alors, ces comètes, il y en a, on en connaît là encore plusieurs milliers. On en connaît plusieurs milliers, en particulier grâce aux satellites, pas tellement grâce aux observations à l'œil ou par des observations, dans ce but-là, mais plutôt des satellites qui regardent systématiquement les choses. Et en particulier, donc, un satellite d'observation du Soleil. Si on regarde. Alors, ça va pas se remettre en route. Si vous regardez celle-là, vous avez une comète qui arrive, pouf, et puis il y a une grosse éjection de matière et qui vient s'écraser sur le Soleil. Et donc, c'est le satellite SOHO qui fait ça, et il y a vraiment très régulièrement, il en est à plusieurs. Alors, voilà. Ah non, excusez-moi. Alors, on va faire autrement. Donc là, voilà, on voit une comète qui passe ici. Alors, ça, c'est une éjection de matière solaire qui a rien à voir avec la comète, mais on voit très clairement la comète qui passe. Et donc ce satellite SOHO, qui était au début fait pour l'étude du Soleil, en fait a permis de découvrir comme ça plusieurs centaines de comètes. Donc là, on voit très bien la comète qui passe. Les comètes, si vous regardez bien, ce qu'on dit, on parle souvent de la queue de la comète, en fait il y a deux queues de nature différente. Vous avez une queue qui est bien rectiligne, ça se voit particulièrement bien ici, une queue bien rectiligne, et puis une queue qui est un petit peu incurvée comme ça. Alors la queue qui est bien rectiligne, c'est une queue qui est faite d'ions. Donc les ions, je vous rappelle, c'est des atomes auxquels on a, alors ici ça va être des atomes auxquels on a, enfin c'est soit arraché, soit ajouté des électrons. Là, c'est des atomes auxquels on va avoir arraché des électrons, enfin sous l'effet de la radiation solaire. Et donc ces ions bah, en fait, sont soufflés par le vent solaire et c'est cette queue qu'on voit ici. Et puis vous avez la deuxième queue qu'on voit là, c'est toutes les poussières un peu plus grosses qui vont rester en fait dans l'orbite de la comète, sur l'orbite de la comète, et comme l'orbite de la comète est un peu incurvée, on les voit sous forme ici incurvée. Et ces poussières de comètes, ces queues de comètes qui restent, on a la même manifestation ça, sur Terre plusieurs fois par an. C'est certaines pluies d'étoiles filantes, par exemple celle qui se passe vers le 15 août. On sait que c'est la comète Temple, et donc c'est la Terre qui passe dans le restant de poussière de la comète Temple, et puis à chaque année régulièrement au même endroit. Et quand toutes ces petites poussières viennent dans l'atmosphère, sont chauffées fortement, etc., s'enflamment, deviennent lumineuses, et c'est ça qui donne les étoiles filantes. Alors, ouais, pour revenir sur une représentante célèbre, la comète de Halley, ça c'est quelque chose qu'on connaît depuis, enfin c'est une comète qu'on a pu repérer depuis très longtemps. En particulier, là vous en avez une illustration sur la tapisserie de Bayeux. Donc tapisserie de Bayeux, c'est Guillaume le Conquérant, 1066 en anglais, pour les cours d'anglais. Là, un peu plus tard, vous avez une représentation de l'adoration des mages par Giotto. On voit encore la comète, donc dans les années 1200 et quelques. Et justement, c'est à cause de ce tableau-là, en particulier, qu'en 1986, quand la comète de Halley est passée près de la Terre, on a donné le nom de Giotto à une des sondes qui allait l'observer. Alors, une des images de la sonde qu'on a obtenue, c'est celle-là. Donc la sonde qui allait vraiment très très proche du noyau de la comète. Alors, un noyau de comète, c'est quelque chose de pas très grand, hein, ça fait quelques dizaines de kilomètres. Pour la comète de Halley, c'est à peu près 20 km de taille. Et là encore, ça a été une vraie surprise, cette image. Parce qu'on voit, des zones de cratères, alors qu'on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus rond, quelque chose qui aura été lissé au fil des passages successifs de la comète. Et en fait, c'est pas du tout ça. On voit aussi des zones ici de plus forte brillance, donc des zones où la matière est éjectée bien plus que d'autres zones par là. Et donc ça a donné vraiment des idées extrêmement intéressantes sur la structure de la comète, enfin, la structure des noyaux de comète. Et donc l'idée qu'on s'en fait maintenant, c'est ce qu'on appelle familièrement des boules de neige chaude. Donc vous avez une matière qui est assez poreuse, donc avec de la glace, donc glace d'eau, glace de dioxyde de carbone, d'autres corps éventuellement. Et puis dedans, tout un tas de poussières, des silicates, des choses comme ça, qui sont agglomérées dedans. Alors, la trajectoire de la comète de Halley, elle est représentée là. Vous avez ici un premier plan qui est le plan de l'écliptique, donc le plan dans lequel quasiment toutes les planètes orbitent. Vous avez ici Neptune, Uranus, Jupiter, où les planètes internes sont par là. Donc je vous dis, à quelques degrés près, c'est 1, 2, 3, 4 degrés, pas plus, toutes les planètes sont dans ce plan-là. Et vous voyez que la comète de Halley en est vraiment très éloignée. Donc ça, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un des arguments qui a amené Oort à postuler l'existence de ce réservoir de comètes, donc le nuage de Oort. Alors, on pense qu'il y a à peu près 100 milliards de comètes enfin, 100 milliards de noyaux de comètes dans ce réservoir. Mais là encore, malgré ce grand nombre, la masse totale est relativement faible. On est là encore en dessous d'une masse terrestre pour l'ensemble de ces comètes. Alors oui, juste encore un mot sur ce nuage de Oort. Un autre des arguments qui avait été avancé par Oort pour postuler l'existence, c'est qu'il fallait que le système solaire soit en permanence réalimenté en comètes. Pouvoir en observer actuellement. Si vous prenez par exemple la comète de Halley, vous pouvez mesurer le taux de dégazage, etc. Et on arrive à peu près à une perte de masse de 1 millième à chaque passage près du Soleil. Alors la comète de Halley, donc, ça revient tous les 76 ans, alors on va dire ça revient tous les 100 ans pour faire un chiffre rond. Vous mettez 1 millième de perte de masse à chaque passage, donc ça veut dire qu'il va faire en gros 10 000 passages. 10 000 passages 60 ans, ça fait 1 million d'années. Donc si toutes les comètes sont à peu près la même chose, ça veut dire qu'au mieux, en quelques millions d'années, il n'y a plus de comètes dans le système solaire. Et on en est maintenant à 4 milliards et demi d'années après la naissance du système solaire, et il y a encore toujours de comètes, il y en a quand même un nombre assez important. Donc là encore, comme pour les anneaux de Saturne qui sont en permanence réalimentés en matière, il fallait quelque chose qui réalimente en permanence les comètes qui arrivent dans le système solaire. Alors ce nuage de Oort, c'est là on arrive vraiment aux limites du système solaire. Ce qui va perturber les noyaux de comètes qui sont dedans et qui pour les faire amener vers l'intérieur du système solaire, c'est par exemple le passage d'une étoile. Parce que là, quand on commence à parler d'années-lumière, c'est la distance des plus proches étoiles. Hein, actuellement, l'étoile la plus proche, Proxima Centaure, est à peu près à 4 années-lumière. Et donc, on va périodiquement, tous les quelques millions d'années, vous allez avoir une étoile qui va passer suffisamment près de ce nuage de Oort pour là encore le perturber gravitationnellement. Alors, vu qu'il est très loin du Soleil, enfin très loin de l'étoile, il n'est pas très fortement lié au Soleil, donc il ne suffit pas grand-chose pour perturber les noyaux de comètes et pour certains les faire revenir vers l'intérieur du système solaire. Alors voilà une petite image pour donner un petit peu l'échelle des distances. Donc vous avez ici, on revient sur Jupiter avec les astéroïdes, le système solaire intérieur, et puis on va aller de plus en plus grand, donc vous agrandissez un petit peu autour de ça, et puis vous mettez l'orbite de Jupiter ici, donc le système solaire intérieur. C'est juste l'espèce de pastille jaune au centre. Et vous avez là représenté en fait la ceinture de Kuiper. En gros, vous avez Sedna ici, Pluton qui est quelque part par là. Vous agrandissez un petit peu, et puis Sedna qui a une orbite extrêmement elliptique. Donc vous mettez tout ce qui était connu du système solaire jusqu'à il y a une vingtaine d'années, donc Pluton, vous le mettez dans cette petite boîte là, et puis vous avez Sedna ici, puis vous agrandissez encore. Et vous avez ici vraiment le bord interne du nuage de Oort qui en fait s'étend beaucoup plus grand, beaucoup plus que ça. Alors, pour donner, donc je vous l'ai dit, le nuage de Oort, c'est à peu près son extension maximale d'une année-lumière du Soleil. Ça veut dire plusieurs centaines de milliers de fois, enfin pas plusieurs centaines de milliers de fois, mais à peu près 100 000 fois la distance Terre-Soleil. Donc ça fait, là on commence à avoir des distances qui sont très grandes. Alors dans le système solaire, donc il y a encore d'autres types de choses. Donc on a parlé des planètes, donc des astres les plus gros. On a parlé des objets de la ceinture de Kuiper, donc des espèces de mini-planètes. Et puis vous avez aussi tout un tas de poussières qui restent dans le système solaire. J'ai parlé des poussières qui pouvaient rester des comètes, mais il y a aussi toutes les poussières qui restent de l'étape de formation du système solaire et qui n'ont pas été agglomérées en planètes. Et ça, c'est des choses qu'on arrive à voir à l'œil nu. Alors, si on a un bon ciel, c'est ce qu'on appelle la lumière zodiacale qu'on voit ici. Ça fait une espèce de cône comme ça, à côté de la Voie lactée. Et justement toutes ces petites poussières qui diffusent la lumière solaire et qui restent de la formation du système solaire. Alors, on en arrive maintenant à se poser la question de où est la limite du système solaire. Alors, je vous ai dit, alors en fait, il plaît encore. Il n'y a pas de réponse tranchée, on peut donner deux types de réponses. Premier type de réponse, si on parle de la zone d'influence gravitationnelle du Soleil, on arrive au nuage de Oort, typiquement une année-lumière, puisque là, après, au-delà de cette distance-là, au-delà d'une année-lumière, on va avoir l'influence gravitationnelle des autres étoiles qui va devenir comparable à celle du Soleil. Alors, pour mettre des chiffres, une année-lumière, à très peu de choses près, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Et puis, on pourrait aussi définir la limite du système solaire comme, en gros, la zone dans laquelle on est protégé du reste du milieu interstellaire. Alors, protéger du milieu interstellaire, ça veut dire quoi? C'est le vent solaire qui va nous en protéger. De la même manière qu'on avait le champ magnétique terrestre qui nous protégeait d'une partie du rayonnement du Soleil, le vent solaire va aussi nous protéger de ce qui vient de l'extérieur du système solaire. Et vous avez une image là-dessus de la limite de cette zone de vent solaire, donc zone dans laquelle là, vous allez avoir le vent solaire qui vient rencontrer le milieu interstellaire. Et comme pour la rencontre du vent solaire contre le bouclier magnétique terrestre, vous avez une onde de choc qui est créée, qu'on représente ici. Et là encore, cette onde de choc est assez fine, donc il peut définir une limite de façon assez précise. Alors je ne sais pas si tout le monde voit bien de sa place, mais il y a deux petits cercles blancs ici, c'est marqué voyageur 1 et voyageur 2. Donc c'est des sondes qui ont été ont été lancés au début des années 70. Et donc, si vous regardez un petit peu le schéma, elles sont donc quelque part par là et puis quelque part par là. Donc elles commencent maintenant à s'approcher de cette zone ici de rencontre du milieu interstellaire avec la zone d'influence du vent solaire. Donc c'est des sondes qui au début étaient faites pour durer quelques années. Ça fait 30 ans qu'elles marchent, qu'elles envoient des informations. On espère qu'elles vont durer encore quelques années pour pouvoir arriver à faire des mesures dans cette zone de rencontre du vent solaire avec le reste du milieu interplanétaire. Parce que là encore, il y aura sûrement certaines choses intéressantes à apprendre. Alors, le vent solaire qu'on vient de décrire ici, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était le seul exemple de système planétaire qu'on connaissait. Jusqu'à 1992 et en fait plutôt 1984, pour faire simple, on va dire les 9 planètes du système solaire étaient les seules 9 planètes qui étaient connues. Et depuis une quinzaine d'années, il y en a tout un tas d'autres qui ont été découvertes. Il y en a beaucoup, on en est à 1400 actuellement. Des planètes qui ressemblent parfois aux planètes du système solaire, qui la plupart du temps n'y ressemblent pas du tout. Et ça a été une des raisons qui ont fait qu'on a été amené à reconsidérer tous les scénarios de formation des planètes autour d'une étoile. De tout ça, je vous en parlerai un peu plus précisément la semaine prochaine, donc avec un collègue de l'UNES qui travaille là-dessus. Merci de votre attention.